Radio Foot International.
Martin Guez.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez de l'appétit. Menu gourmand, voire gargantuesque aujourd'hui dans Radio Foot. On commence par une pincée d'honneur, un honneur sauf pour l'OM, très humilié, pas très organisé jusqu'ici. L'Olympique de Marseille a retrouvé la recette du succès en Ligue des Champions, recette très riche en pénalty. Déshonoré, pas vraiment affamé, le Real Madrid a lui encore calé face à Donetsk, pendant que l'Inter Milan retrouvait du mordant contre Mönchengladbach, de quoi redonner toute sa saveur et son piquant au groupe B, où tout est encore possible avant la sixième journée. Et puis les Parisiens qui nous laissent pour l'instant sur notre faim, mais qui vont devoir jouer le couteau entre les dents ce soir face à Manchester United pour espérer rester à la table des grands, et on tentera de vous mettre l'eau à la bouche avant ce savoureux Dortmund-Lazio Rome. Enfin, on tire notre toc à une grande chef, Stéphanie Frappard, toute première femme à arbitrer un match de Ligue des Champions. Ce sera tout à l'heure entre la Juventus Turin et le Dynamo Kiev. Autour de moi, des gloutons, grands consommateurs de foot qui ont leur ronde serviette dans l'émission, à commencer par Eric Rabessandratana. Bonjour Eric.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Et à vos côtés, quelqu'un à qui il vaut mieux parler football que gastronomie, puisqu'il est spécialiste de l'Angleterre. Bonjour Salim Bengali.
Oui, bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous.
Et enfin un omnivore qui goûte à tout. Bonjour Patrick Julien.
Sans limite, sans frontières. Bonjour Martin,
voilà,
bonjour
limite,
à tous.
Sans frontières, Radio Foot. Vous avez le menu, on met le couvert, tous à table, c'est parti.
C'est servi, à table, j'espère que vous allez vous régaler.
Pour l'instant, les Grecs, là, de plus en plus, arrivent à rentrer dans la surface de réparation. C'est le cas, là, de Vroussaï, là, qui met en retrait peut-être une frappe de Madi Camara. Et c'est le but, justement. Et le voilà, Madi Camara, le Guinéen. Et une frappe sèche, soudaine. Dimitri Payet va peut-être marquer le deuxième but olympien dans cette Ligue des Champions, son deuxième but personnel ce soir. Le face-à-face est le même, Payet, José Sa, au même endroit, il était parti du bon côté cette fois, José Sa, mais il touche une nouvelle fois la lunette gauche.
De 12-1 en faveur, non vous ne rêvez pas, de l'Olympique de Marseille qui est en train d'échapper à une 14e défaite et même d'accrocher sa première victoire depuis 2012.
Eh non, vous ne rêvez pas, Marseille a bien remporté un match de Ligue des Champions après 13 défaites, le chiffre fétiche hein, dans la cité phocéenne et dans les Bouches-du-Rhône, succès 2-1 hier soir face à l'Olympiakos, vous l'avez vécu sur RFI. Malgré le super but du Guinéen Madi Camara, Dimitri Payet a renversé le match sur deux penalties. Alors on a énormément souffert avec cette équipe hein, depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Eric Rabessandratana, ce n'est pas votre club de cœur en voulant
non.
Du PSG, mais quand même,
désolé.
Parce que c'est un soulagement. Ça a été clair, je sais, désolé. Parce que moi, c'est un soulagement de voir Marseille se remettre un petit peu la tête à l'endroit, au moins pour leurs supporters.
Alors oui, pour les supporters, j'imagine que c'est plutôt positif. Maintenant, la prestation n'était pas non plus complètement aboutie, mais ça reste quand même une victoire en Ligue des Champions. Voilà, c'était important d'arrêter cette série, vraiment. Je pense que même pour l'honneur du club, c'était déjà important d'arrêter. Donc là, voilà, c'est fait. Maintenant, peut-être ça va leur donner un peu plus de confiance. Surtout qu'en championnat, ça marche pas mal déjà. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir finir la Ligue des Champions avec les honneurs.
Salim, cette victoire marseillaise, on a beaucoup souffert, on l'a dit avec eux depuis le début. On a poussé un ouf de soulagement avec eux, même si on n'est pas vraiment supporters. Tout le monde a souffert en regardant Marseille depuis le début de cette Ligue des Champions.
Oui, et notamment cette séquence lorsque l'Olympique de Marseille obtient ce penalty. On se dit, bon, Payet qui pose la balle, est-ce que Payet va vouloir vraiment frapper? Est-ce qu'il va penser à ce penalty raté face au FC Porto lors de la troisième journée?
Sûrement.
Finalement, sans doute qu'il y a pensé, mais il a pris ses responsabilités avec un penalty qui est très bien frappé d'ailleurs.
Très bien.
Vraiment, la lucarne
deux fois le même. Hein.
Et le deuxième penalty, il le frappe de la même manière. José Sa qui plonge, qui effleure, mais au final, il le marque quand même. Là, pour le coup, au moins Payet, alors on l'a suffisamment critiqué, et souvent à juste titre d'ailleurs. Hier, au moins, il a pris ses responsabilités. Il a fait ce qu'il fallait avec ses deux buts marqués. Après, hier, juste avant de vous laisser la main, Eric, hier, quand même, dans la manière. Alors, la victoire est là, et je pense que c'est effectivement en termes de confiance, c'est une bonne chose.
Ouais.
Dans la manière. Surtout qu'à 2-1, Marseille reste derrière l'Olympiakos. Donc, il fallait essayer de tout faire pour marquer ce troisième but. Mais il y a eu ce deuxième but. Après, Marseille a arrêté de jouer. Marseille a reculé, a préservé la victoire, comme quoi il y avait soit la possibilité peut-être de passer devant l'Olympiakos, soit la possibilité de gagner un match. Juste de se dire, on a gagné un match en C1. Ben, a priori, Marseille a préféré.
Salim, vous évoquiez les critiques hein, sur Dimitri Payet. C'est vrai que depuis le début de la saison, on n'a pas été vraiment tendre avec lui, mais il a marqué ce week-end contre Nantes et surtout donc ce doublé hier, Patrick, tout premier but en Ligue des Champions, il a quand même fallu attendre 20 matchs pour le voir scorer dans la compétition.
Oui, parce qu'on oublie beaucoup avec la belle carrière que fait Dimitri Payet qu'il a peu souvent joué dans des clubs qui jouaient la Ligue des Champions. Il a fait une bonne carrière mais plutôt dans des clubs de niveau intermédiaire, intermédiaire supérieur, et pas souvent dans des clubs invités régulièrement en Ligue des Champions. Là, il en a l'occasion. Alors l'OM, sur l'ensemble de la campagne, fait quand même des prestations, disons-le, indignes de ce qu'on peut attendre. Mais effectivement, l'honneur, au moins en termes de résultats, en termes comptables, est sauf. Mais comme l'a bien dit Salim, c'est très dommage quand même. L'histoire ne repasse pas les plats. L'OM va pas jouer deux fois l'Olympiakos à domicile. Ils avaient l'occasion d'enfoncer le clou, d'essayer de prendre l'avantage à la différence de but particulière en mettant un plus 2, en mettant un troisième but pour... en cas d'égalité, au final, dans le groupe, passer devant les Grecs et arracher la place en Ligue Europa, eh ben non. Là, il faut absolument qu'à la prochaine journée, ils fassent un meilleur résultat que les Grecs. Et la partie sera pas simple, puisque tous les deux vont jouer une équipe déjà qualifiée. Donc à ce niveau-là, l'avantage est le même. Mais la différence, c'est que l'Olympiakos va jouer Porto. Et je pense que l'écart entre l'Olympiakos et Porto est moins grand que celui entre Marseille et Manchester City aujourd'hui. Voilà, donc ça donne compliqué quand même.
Eric, ouais, alors c'est juste pour revenir sur c'est particulier, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une période où vous êtes vraiment pas du tout en confiance, je pense qu'on se contente de la victoire parce qu'on sait que voilà, c'était tellement fragile par rapport à leur parcours en Ligue des Champions, il y a aussi cette pression de continuer les échecs et ces défaites. Je pense que psychologiquement ça marque beaucoup quand même, mine de rien. Donc on a sur le coup en se disant on va gagner, on prend les 3 points, mais c'est vrai que derrière on pense pas forcément, on calcule pas forcément que ça va être dur d'aller faire un résultat à Manchester.
Alors messieurs, avant de continuer, une petite devinette, hein, vous avez peut-être la réponse, vous la connaissez peut-être, mais est-ce que vous savez qui est le dernier buteur de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions avant donc ce doublé hier de Dimitri Payet?
Souley Diawara.
Ouais, c'est du rapide, on a même pas le temps d'appuyer sur le buzzer. Souleymane Diawara, c'était contre Dortmund. Et ça remonte au 11 décembre 2013, 7 ans de malheur et une malédiction donc brisée.
3-2, non ?
C'était une victoire 2-1 pour
3-2,
pour Dortmund.
C'était Naples, oui.
Exactement, c'était ouverture du score pour Souleymane Diawara, mais ça n'avait pas suffi. 6 défaites à l'époque, une malédiction qui est donc brisée. Et un ouf de soulagement poussé donc par toute l'équipe de l'Olympique de Marseille et par Valentin Rongier, le milieu olympien.
Ça fait beaucoup de bien, on l'attendait depuis le début de la compétition, tout simplement. Et je pense que cette victoire, on la mérite parce qu'on n'a vraiment rien lâché. Si on perdait ce soir, on allait être un peu plus ridicule. Et je pense que notre fierté a parlé ce soir. On a montré un peu de dignité. Puis on va rien lâcher jusqu'au bout et je pense que ça nous sert d'expérience à tous parce qu'il y en a qui ont déjà joué cette compétition mais pour la plupart on la découvrait. Donc je pense que voilà, c'est un bon apprentissage.
Voilà le soulagement après le ridicule, hein. Valentin Rongier qui était au micro de RMC Sport. RMC Sport, tiens, votre employeur, Salim Bangali, Marseille qui ne sera donc pas Fanny, comme on dit dans le Sud, qui a effacé des ardoises, les vilains zéros qui corsaient un petit peu l'addition en 0 points, 0 but. C'est du passé, c'est tout ce qui compte. On n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont envie d'aller chercher cette Ligue Europa. Il fallait surtout retrouver de l'honneur pour les Marseillais.
Oui, on l'a résumé, et Eric l'a très bien dit, en tant qu'ancien joueur, quand vous êtes dans cette vague de défaites, quand vous êtes dans cette vague de critiques, parce qu'on ne cesse de vous critiquer en vous disant, bon, en championnat, vous arrivez à peu près, mais en Ligue des Champions, vous êtes humilié par tout le monde, réussir à prendre ces 3 points, et Rongier l'a très bien dit, parce que au-delà de la victoire, il y a quand même eu une attitude. Alors, je disais que Marseille a reculé, c'est vrai, pendant les 20 dernières minutes, mais Marseille a été solidaire, voilà, c'est le terme. Notamment, il y a une grosse occasion en fin de partie avec Alvaro Gonzalez qui fait le tacle qu'il faut pour sauver la balle du 2-2 potentiel.
Bon, si c'est
donc, on a vu des séquences malgré tout en termes de solidarité qui étaient intéressantes. Après, maintenant, voilà, il va falloir essayer. Alors, au-delà, on ne sait pas ce qui va se passer à City la semaine prochaine. City qui va nettement faire tourner parce que City est assuré d'être premier.
C'est ça, c'est une équipe B, donc peut-être.
Ce sera une équipe B. City qui est assuré de finir premier. City qui a d'autres échéances en championnat, évidemment, avec des gros matchs qui sont tous les 3 jours aussi en première ligue. Donc, pas impossible au final que si Marseille prenne un point. Après, l'Olympiakos va recevoir Porto qui là aussi va tourner parce que Porto est 4e de son championnat. Porto est en grand danger dans son championnat. Donc là aussi, Porto va faire tourner. Donc oui.
Et puis si on veut être tout à fait honnête, on n'avait pas vraiment l'impression hier, s'ils avaient marqué un 3e but, les Marseillais, ça aurait pu être les mettre devant l'Olympiakos. Au moins, on n'a pas l'impression qu'ils ont appuyé sur le champignon, en fin de match. Ils ne rendaient pas le ballon, ils gagnaient du temps. Le but, c'était vraiment de
gagner. Je pense que c'était. Ouais, et puis aussi sauver l'honneur.
C'est ça.
Dans l'esprit, sauver l'honneur. Après, bon, bah voilà, on verra bien ce qui viendra derrière, mais
après il y a toujours indirectement ces attitudes aussi, enfin ces discours du coach, notamment André Villas-Boas, lorsque après le match, déjà lors du dernier match, et là aussi lorsqu'il vous dit ouais mais quand on finit troisième, être versé en Europa League, pour moi c'est un scandale, c'est pas normal d'être versé en Europa League quand vous finissez troisième, lorsque vous faites c'est une campagne ridicule. Alors je peux comprendre ce qu'il dit. Après vous savez que lorsqu'il y a des supporters de l'OM ou de n'importe quelle équipe, quand ils finissent troisième, quand ils continuent une compétition européenne, ben les supporters sont quand même contents de pouvoir continuer d'être en février, en mars. Donc bon, Villas-Boas d'à côté, il a ce discours-là. Les joueurs, est-ce qu'inconsciemment, ils l'enregistrent ? Ça aussi, je
non, sais mais pas, c'est surtout c'est qu'après un parcours comme ça, de jouer la Ligue Europa, t'es quand même content de jouer la Ligue Europa. Donc tu peux pas, tu peux pas faire de réflexion comme ça dans une situation.
Surtout en public, parce que si vous le faites en privé, à la limite, mais devant la presse, et vous insistez pas qu'une fois, plusieurs fois, Villas-Boas qui dit ça.
C'est faire la fine bouche, alors que bon. La situation ne te permet pas de faire la fine bouche.
Oui, et puis de toute façon, l'OM n'a pas un effectif taillé pour la Ligue des Champions, évidemment, à la fois en qualité et en quantité. La Ligue Europa, on a bien vu que ça pouvait leur réussir dans un passé récent, mm-hmm. avec un effectif qui n'était pas à des kilomètres au-dessus de celui de cette année. Rappelons-le, en 2018, finale, bon, un beau parcours, aidé sans doute par des tirages assez cléments, mais qui a le mérite d'être là et qui a forgé quelque chose dans cette équipe. Oui, je pense que c'était un peu déplacé. Je pense que on sent chez Villas-Boas depuis quelques semaines une manière de jouer un peu sa carte personnelle, de penser peut-être à son avenir à lui avant de s'inscrire dans celui du club, ce qui est un petit peu gênant, même si on sait qu'il est en fin de contrat au terme de la saison. Mais c'est un petit peu gênant et je pense que c'est une situation qui est un peu aidée par le fait qu'il n'y ait plus de public au stade, par le fait qu'il n'y ait plus le rapport direct entre les joueurs et le public qui peut siffler, qui peut exprimer sa désapprobation. Et les joueurs et les entraîneurs se lâchent un peu plus, je trouve, en l'absence du public.
Bon, messieurs.
Je pense que ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que la pression a pu être nettement supérieure avec du public dans le stade. Donc je pense que c'est pour ça que
ça peut aussi être source d'encouragement.
Un autre côté, voilà, exactement. Ouais.
Bon, messieurs, au moins l'honneur est sauf. Nous, on enfile nos doudounes. On file en Ukraine à Glagla.
Solomon, il y a surnombre là pour les joueurs du secteur Donetsk. Solomon qui s'est mis en position. Solomon, comme au match aller. Comme à Madrid, le Shakhtar Donetsk qui est en train de donner la leçon au Madrilène. Et le deuxième est signé Manor Solomon.
Quelle drôle d'image, messieurs. Sous la neige, avec un vilain bonnet blanc. Hein. Tempête sous un crâne pour Zinedine Zidane. Encore battu par le Shakhtar Donetsk. Cette fois-ci 2-0 en Ukraine, on se rappelle du match aller. Déjà perdu, 3-2. Résultat, le Real n'est que troisième de son groupe avant la dernière journée. Est-ce que le Real et surtout Zinedine Zidane sont en danger, messieurs ?
Le Real, c'est l'équipe qui a le plus gagné de Champions League. C'est l'une des équipes qui fait le plus rêver, en tout cas qui fait le plus parler. À un moment donné, lorsque vous êtes battu deux fois par Donetsk, je vais être méchant envers le club ukrainien, mais quand on voit le groupe de base, on se dit que Donetsk va être troisième.
Surtout Donetsk qui a pris 10-0 en deux matchs contre Mönchengladbach, on n'en avait pas forcément peur.
Quand Gladbach a gagné 6-0 en Ukraine, il n'y a pas si longtemps au final, et que le Real, lors du match aller, perd 3-2 à domicile face à l'équipe B de Donetsk, puisque ce jour-là, le Covid avait atteint de nombreux joueurs ukrainiens. Lorsque hier, alors il y a eu des séquences où vous avez eu des occasions. Alors ok, Hazard est pas là, ok, Ramos est pas là. Mais à un moment donné, au-delà de Zidane, mais c'est au final c'est toujours l'entraîneur qui est le fusil potentiel. Il y a des joueurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Je parle pas de Benzema qui peut avoir un match sans. Ça arrive à n'importe quel joueur.
C'est vrai que les ailiers, les latéraux hier ont eu des matchs
notamment,
compliqués.
Notamment. Et puis Vasquez, un Rodrigo. Joueur clé. Alors je vois un défenseur central en face de moi, donc ça m'y fait penser encore plus. Mais Raphaël Varane, depuis de nombreuses semaines, il est en grande difficulté. Hier Ramos n'était pas là, donc c'était lui qui avait les responsabilités.
Qu'on rappelle le premier but un petit peu gag entre Varane Mendy et Mendy et qui ne se comprennent pas et un but offert complètement.
Totalement. Et le deuxième but, le joueur ukrainien qui avance, personne ne va sur lui, jamais attaqué, sa frappe croisée qui est très belle. Enfin, à un moment donné, il y a des individualités qui sont en faute, il y a un collectif qui est en faute et à un moment donné, le physique, ben, c'est toujours coach.
Ouais, mais après, quand on voit déjà la performance du Real sur le match aller, Je vous avouerai, franchement, je suis pas surpris en fait du résultat de.
Mais c'est vrai qu'on les pensait mieux. Ils venaient de sortir de deux victoires contre l'Inter. On s'était dit qu'ils étaient peut-être lancés dans cette Ligue des Champions.
C'est vrai, sauf que la performance du Shakhtar au Real a été tellement impressionnante. S'ils en prennent 6, le Real contre le Shakhtar au match aller, c'est normal en fait. Ils
contre
ont tellement vendangé.
Il y avait énormément de
c'était
joueurs.
C'était incroyable de vendanger autant de face à face sur ce match-là. Donc la défaite quelque part, elle est pas non plus surprenante sur le match retour. Pour parler de Varane, même en équipe de France, quand il doit prendre le rôle de chef d'orchestre derrière, il le fait pas trop. On a vu dernièrement plus de caractère chez Kimpembe que chez Varane. Est-ce que c'est vraiment son caractère? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un bon second et qu'il a besoin d'avoir quelqu'un de fort à côté de lui pour briller. Et,
comme Ramos, ce qu'il a d'habitude,
ce qui est encore plus facile quand vous avez Ramos à côté de vous, mais. Là, ouais, il est. On se pose des questions en sachant que l'euro arrive derrière en plus.
Je pense que toute l'équipe du Real est au-delà des problèmes de jeu collectif, des problèmes tactiques, mais il y a un problème physique. Le Real finit très mal ses matchs et pas uniquement en Ligue des Champions. Encaisse beaucoup de buts dans les 20-30 dernières minutes. Et les joueurs ont l'air d'être sur les genoux. Les défenseurs, il n'y a pas d'agressivité. Je parle pas d'aller mettre des coups, mais de défendre comme on doit défendre. Le deuxième but est symptomatique. Ce Brésilien dévale tout le...
C'est peut-être Solomon plutôt le...
Solomon, oui, pardon.
Oui, tout à fait. L'Israélien.
Oui, Israélien, pardon. J'ai confondu avec Mathusalem, hein, c'est pour ça.
Bon, messieurs.
Il dévale tout le terrain sans être attaqué. Il met une frappe. On avait vu aussi lors du restart, enfin de la reprise après l'interruption, que Thibaut Courtois était très souvent décisif, avait fait de très bonnes choses. Là, il l'est moins. Il y a tout un tas de choses. Eden Hazard, qui était supposé être la recrue.
Là, qui se blesse
on
tout
disait,
le temps.
C'est notre meilleure recrue. Bah, il s'est reblessé. Ça tourne assez mal, ça tourne vraiment pas bien pour le Real.
Et ça tourne mal pour Zinedine Zidane, on l'a dit. Hein. Peut-être fusible, ce serait celui qui sauterait en premier. On l'annonce de toute manière en permanence sur un siège éjectable. Mais il ne sautera pas de son plein gré, nous dit.
Non,
je ne vais pas démissionner. Nous enchaînons les mauvais résultats, c'est la réalité, mais nous devons continuer. Face au Shakhtar, nous disputions une finale et nous l'avions préparée. Nous étions bien en première mi-temps, mais nous n'avons pas su marquer. Maintenant, il nous reste un match face à Mönchengladbach. Nous devrons décrocher un bon résultat pour nous qualifier et c'est tout.
Alors messieurs, ce qui est incroyable, c'est que petite chance dans son malheur, le Real a vu l'Inter battre Mönchengladbach 3-2. Et résultat, un nul pourrait suffire aux Madrilènes au dernier match. Est-ce que c'est pas miraculeux? Comment on peut mettre Zidane sur un siège éjectable alors qu'un nul en fait pourrait suffire pour se qualifier?
On le disait encore une fois hein, en préambule, c'est que le Real se doit d'être, j'ai envie de dire, au-dessus, très au-dessus. Là, au final, on est en train de se dire et en train de calculer effectivement, un nul sur le dernier match pourrait suffire. Alors déjà, faut réussir à le faire. C'est pas sûr parce que
pourrait arranger tout le monde, hein, parce que Gladbach pourrait avoir un petit arrangement entre gentlemen.
C'est vrai que sur le principe, vous avez raison. Après, on connaît aussi l'importance parfois des premières places ou des deuxièmes places pour les tirages au sort et ça peut compter. Imagine le Real qui finit deuxième, ben là il y a beaucoup d'équipes qui finissent en première qui voudraient pas tomber face au Real. Bref, et Gladbach a fait une si belle campagne, je pense que Marco Rose il a une envie, c'est de finir premier et de montrer à tout le monde que Gladbach peut être une très bonne équipe aussi, même s'ils ont été surpris hier.
On a parlé de fatigue du Real, mais en fait, en plus, le Real aurait dû faire une préparation normale et une reprise normale, puisque quelque part,
ils n'ont pas eu le final. Tu
t'as été éliminé assez rapidement de la Ligue des Champions, donc du coup, ça vient de quoi? C'est mental, et puis ça vient surtout d'une équipe qui est en fin de cycle.
Oui, voilà, c'est une équipe vieillissante.
Voilà, donc il peut pas faire non plus de miracle en arrivant, en n'ayant pas d'argent pour acheter de nouveaux joueurs, et en plus avec des joueurs qui sont en fin de cycle. Qui sont talentueux mais en fin de cycle, ça paraît compliqué aussi pour Zidane. C'est pour ça que est-ce qu'on peut lui jeter la pierre réellement? Il fait un petit peu avec ce qu'il peut.
Mais après, comme Martin dit, s'ils font machu la semaine pro, ils sont qualifiés. Et là, on dira même avec des difficultés, une équipe en fin de cycle, même avec une équipe fatiguée qui a fait une mauvaise prépa, il arrive quand même à qualifier son équipe pour les huitièmes.
En sachant qu'on a toujours un Real qui est meilleur en deuxième partie de saison.
Tout de même, ça s'inscrit dans une très mauvaise séquence puisque le Real avait perdu en Liga contre Alavés.
Ouais,
c'est vrai. Ça fait désordre à domicile. Alavés, c'est comme si le PSG était battu par Angers. arriver au Parc des
Princes. Ils sont jamais que quatrième de Liga.
Oui,
et
certes, mais disons Ligue qu'ils profitent pas des difficultés du Barça, alors que en temps normal, quand le Barça est en difficulté, le Real fait
cavalier
seul.
C'est là qu'ils font la
différence. Ouais. Là, on sent qu'ils sont un peu englués dans la même difficulté et ça fait désordre. Ça fait désordre. Le Real, le Barça a vécu une grosse crise en interne, une crise, une vraie déflagration avec les rumeurs de départ de Messi et tous ces chamboulements, tous ces départs cet été. Le Real a eu une intersaison un peu plus simple, un peu moins agitée. Ça aurait dû les mettre dans ils auraient dû en bénéficier davantage.
Voilà, le désordre au Real. Pour finir avec les matchs d'hier, on va évoquer les autres rencontres, surtout deux qualifications. Porto, grâce à son nul 0-0 contre City, et surtout Liverpool, hein, le champion de, pas de cette saison, mais de la saison d'avant, gagnant 1-0, un très beau match contre l'Ajax d'Amsterdam, et sur un but d'un Pierce Schouser, hein, qui se fait une belle place dans l'effectif de Liverpool en ce moment. C'est le jeune Curtis Jones, Salim.
Exactement, Jürgen Klopp lui a fait confiance l'année dernière, déjà en jouant de manière régulière, en tout cas en entrant en cours de jeu. Il avait marqué un but magnifique, je m'en souviens, en Cup la saison dernière face à Everton, lors d'une victoire 1-0, et Curtis Jones fait partie désormais du roulement. Il est le 12 ou 13e homme désormais de Liverpool, et dès qu'il y a un absent, dès qu'il y a des blessés, il en profite. Et vous le savez, à Liverpool, des blessés, il y en a en ce moment, donc il en profite encore plus. Hier, il a marqué un joli but sur une erreur, il est vrai, de Nana aussi. En tout cas, il a eu le réflexe pour mettre son extérieur du pied droit. Liverpool qui se qualifie.
Mais surtout, avant, il met un poteau, il frappe, enfin, il fait un très beau match.
Il fait effectivement un très beau match. Donc, Curtis Jones qui permet à Liverpool de se qualifier, l'Ajax qui perd, l'Atalanta qui ne fait match nul.
On va y revenir effectivement sur cette belle finale qu'on a. Mais pour rester sur Liverpool, on a découvert des jeunes, vous le disiez, il y a beaucoup de blessés à Liverpool. On a découvert un gardien, ouais, un troisième gardien, ouais. Kelleher, qui est irlandais, qui a 22 ans. On pensait à Adrian, qui est en difficulté souvent quand il est remplacé Alisson. Finalement, c'est lui qu'on a vu. Je vous mets au défi, messieurs, de prononcer son prénom. Il a un prénom gaélique, hein, lui qui est irlandais.
Kayomin.
Alors, ça se prononce Quivin.
Quivin.
Quivin Kelleher.
Ah ouais, donc, oui, c'est...
Mais vraiment, excellent hier, Quivin Kelleher.
Mais hier, c'était son cinquième match pro. Cinquième, première apparition en Champions pour lui. C'est vrai qu'on a été un peu surpris par la compo de Klopp, puisqu'il n'avait pas prévenu qu'il allait mettre Adrian et laisser Adrian sur le banc, alors qu'Alisson n'était pas là pour cette rencontre. Finalement, il met Kelleher. En plus, pour un Liverpool-Ajax, qui avait quand même de l'intérêt pour Liverpool, parce que un nul suffisait pour se qualifier
officiellement. Sur une tête de Huntelaar en fin de match, il sort un
exactement, mais il a fait plusieurs parades hier. Et là, on s'est dit, alors que le Kelleher, on l'avait vu en réserve, mais bon, ce n'était que la réserve. Là, hier, il a prouvé qu'il avait des qualités énorme, que ce soit pour Liverpool et même pour l'équipe d'Irlande.
Et vous le disiez, Salim, dans le même temps, l'Atalanta qui n'a pris qu'un point, hein, qui n'a fait que match nul contre les Danois de Midtjylland, qui prennent leur premier point aussi. C'était la journée des premières pour les bisous hier.
L'Atalanta, c'est le premier de l'histoire, contrairement à l'OM.
Ah, oui, exactement. Bah, voilà. un petit club qui a une petite histoire, mais qui prend de la place. C'est une très belle passe décisive de Sorikaba, le Guinéen.
Ancien de Dijon.
Ce qui nous fait l'Atalanta à 8 points, l'Ajax 7 points. Eh ben, ça tombe bien, les deux équipes s'affrontent la semaine prochaine. Ça ressemble à une vraie finale, hein, Patrick, avec notamment le Burkinabé Lassine Traoré et le Marocain Labiad du côté de l'Ajax.
Entre autres, avec Onana dans les buts, qu'on espère meilleur, nous doit une revanche. Oui, c'est intéressant. L'Ajax, qui a une nouvelle génération, enfin, c'est ces joueurs qui sont devenus des cadres suite au départ de la génération dorée de 2019, ils sont en train de prendre le pouvoir. Il y a beaucoup de joueurs internationaux africains. C'est intéressant à suivre. Des profils très différents quand même, puisque Labiad, c'est plutôt un joueur en deuxième partie de carrière qui s'est relancé, qui est revenu un peu de...
Oui, il est plus si jeune.
D'une sorte de descente aux enfers au Portugal, entre guillemets. Hein, toute proportion gardée, alors que Mazraoui est un petit nouveau, tout comme Lassine Traoré.
Et attention à l'Ajax l'année dernière, qui avait perdu ça et qui ne s'était pas qualifié sur la dernière journée.
Exactement.
Lors d'une défaite à domicile. Donc on espère pour les Néerlandais que l'expérience de la saison dernière va leur servir la semaine prochaine.
Les deux équipes un petit peu frissons de ces deux dernières années.
C'est, hein, vrai.
C'est vraiment le match qu'on a envie de voir peut-être.
Là au niveau du plaisir, on sait que Gasperini savait jouer, que Ten Hag veut jouer également. Donc a priori il y aura des buts, a priori.
Allez messieurs, 17h35 ici à Paris, on réactualise les matchs du jour. Alors, Paris critiqué, Paris démystifié, Paris au rabais. Mais est-ce que Paris qualifié, les Parisiens, bon, on va le dire, un très décevant quand même cette saison en Ligue des Champions, en championnat aussi, mais qui pourrait donc se qualifier ce soir en cas de victoire prolifique à Manchester? Et si Leipzig ne s'impose pas à Başakşehir, Eric Rabessandratana, sur ce que vous voyez du PSG depuis le début de saison, est-ce que ça vous semble possible un succès parisien ce soir face à Manchester?
Bah. Oui, ça paraît possible, évidemment.
Vous soupirez quand même pour commencer.
Oui, je soupire parce qu'en fait, les prestations sont quand même assez difficiles à l'heure actuelle du côté du Paris Saint-Germain. Alors, tant sur les scores que sur la manière. Là, quand on voit la victoire contre Leipzig,
ça manquait de sérénité.
Ça manquait de sérénité. Ça manquait de. Heureusement que vous avez un penalty sifflé gracieusement par l'arbitre, parce que franchement,
on avait rarement vu un Paris aussi fébrile à domicile.
Ça faisait
Ligue
très très longtemps, ouais, avec quand même 37% de possession de balle par rapport à Leipzig. Vous êtes chez vous, c'est assez gênant quand même, je pense, en termes de voilà, quand vous savez l'effectif qu'il y a à Paris. Oui. Donc voilà, ouais, on est très très loin de ce qu'on peut donner en ce moment. Alors on sait qu'il y a une certaine fatigue, mais elle ne cache pas tout en fait. C'est-à-dire que au départ, avant d'arriver à cette fatigue, il y a quand même un état d'esprit à avoir. Et là, c'est là où je suis déçu de la part de ces joueurs.
J'ai l'impression qu'on mise tout sur les deux individualités hors normes.
Exactement.
Il y a beaucoup de liens dans ce collectif.
Il y a pas de jeu en fait. C'est-à-dire que le jeu, c'est de donner le ballon à Neymar et d'espérer un décalage, le talent. Voilà, les joueurs sont livrés un petit peu à eux-mêmes. Alors il y a aussi peut-être, alors certainement la faute de Tourelle, parce que ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas de fond de jeu derrière. Mais il y a aussi un problème d'état d'esprit des joueurs. Alors autant contre Leipzig, il y avait ni l'un ni l'autre, mais les deux étaient responsables. C'est-à-dire que les joueurs, quand on voit Neymar jouer et que il garde le ballon et qu'il dribble, il prend des coups, il s'énerve, il donne pas le ballon forcément quand il doit donner le ballon. Il y a des joueurs de libre, ils donnent pas le ballon. Ça veut dire que déjà au niveau de l'état d'esprit, c'est pas bon. C'est-à-dire que on n'est pas sur un problème de fatigue, on n'est pas sur un problème de fond de jeu, on est sur un problème de l'état d'esprit du joueur. Et là, déjà, c'est beaucoup plus gênant. En plus, quand on voit que la relation entre Neymar et Mbappé, ils étaient pas trop sur la même longueur d'onde contre Leipzig. Donc ça fait beaucoup de paramètres qui font que on est quand même obligé de se poser des questions et être inquiet avant ce match contre Manchester.
Patrick Julliard, sur l'état de forme vraiment Paris qu'on a vu perdre à Monaco, très poussif contre Leipzig, ce week-end qui partage les points contre Bordeaux, est-ce que ce serait pas le moment et la bonne occasion finalement de lancer cette saison ce soir à Manchester?
On peut l'espérer. Moi, ce qui me donne un petit peu d'espoir, c'est que le résultat des deux matchs, la double confrontation contre Leipzig, est paradoxal, puisque le meilleur des deux matchs dans le contenu, c'était le match aller, que le PSG a fini par perdre. C'était une défaite assez imméritée, alors que le retour que le PSG a gagné à domicile est très très pauvre dans son contenu. Donc il faut espérer pour le PSG qu'il soit plutôt dans l'état d'esprit et les dispositions qu'ils ont affichées à Leipzig lors de la troisième journée, d'abord. Ensuite, le deuxième relatif motif d'espoir, c'est le retour de Marco Verratti et de plusieurs joueurs blessés, mais en particulier de Verratti. On a vu sur la fin de match contre Leipzig, les 10 dernières minutes qu'il a joué, que vraiment, oui, le joueur le plus important du PSG, finalement, c'est ni Neymar ni Mbappé, c'est Verratti. Parce que sans lui, l'équipe est coupée en deux. C'est lui qui cimente un peu ce qui, sans y réussir totalement, mais qui donne un peu une colonne vertébrale à cette équipe. Avec peut-être Navas aussi qui sauve un peu la baraque derrière, il faut le souligner.
Heureusement,
le PSG avait un gros problème de gardien pendant 4-5 ans depuis le départ de Sirigu.
Bon.
Voilà. Donc, il y a les deux motifs d'espoir, ils sont là pour moi. Après, avec Neymar et Mbappé, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise parce que le talent est tel que un coup de génie peut arriver à tout moment, mais on n'a pas les certitudes collectives qu'il faudrait pour que ces joueurs-là soient un peu le dernier étage d'une belle fusée.
Quoi. Eric, peut-être sur Verratti.
Verratti, bien sûr, évidemment. Quand on a vu les 12 minutes qu'il a fait en rentrant.
Il est rentré avec Delaniac, hein, contre Bordeaux.
Je veux dire, mais évidemment que ce joueur-là, s'il n'est pas blessé, peut-être que les prestations du Paris Saint-Germain, déjà en Ligue des Champions, vont être différentes. Alors, pour rappeler juste par rapport au match aller de Leipzig, il y a pas Mbappé, il y a pas Neymar. Hein.
Oui.
Et donc là, ils sont là.
Mais
et la prestation et c'était bien parce que vous avez Keane.
Oui.
Keane qui rentre en Leipzig et qui fait son travail devant et qui travaille défensivement parce que c'est ça le problème aussi
du Paris Saint-Germain. Sur les corners défensifs.
C'est que les trois devant contre Leipzig, il y a pas de boulot défensif à part
Keane qui devrait être aligné normalement.
J'espère parce que là, ce qu'on voit sur le journal, c'est pas ça.
Non, mais
ça m'inquiète.
Justement, je vous donne la compo pour le coup, puisqu'on l'a reçu. En l'occurrence, avec Paredes, Danilo et Verratti qui vont être au milieu, Mbappé, Keane et Neymar devant. Paredes, Danilo, Verratti, très bien d'ailleurs au milieu de terrain. Enfin, Verratti, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rester relativement bas et va être sur un mode quarterback ou il va devoir monter un peu plus parce que au niveau créativité, en fait, tout va reposer sur lui.
Non, il va être plus haut, je pense.
Ça veut dire que
Danilo sera devant la défense.
Je le souhaite pour le PSG.
Alors même si on a on a souvent voilà entre Paredes, Verratti, ça va certainement bouger, mais Verratti, j'espère qu'il sera quand même l'électron un peu plus libre.
Délivré du sale boulot par Danilo et Paredes, qui sont plus des joueurs physiques.
Peut-être. Peut-être qu'on va être inversé avec un Paredes, Danilo l'un à côté de l'autre.
Je le souhaite pour le PSG et puis également Diallo sur le côté gauche. Ça va être aussi un gros défi pour le coup pour l'ancien Dortmund.
Pour dire la confiance qu'on donne à Kurzawa.
Non, mais en même temps, oui, mais c'est pas une question de Kurzawa. Le problème, c'est que Bakker contre Bordeaux, c'était pareil en fait. C'est que là, les deux n'ont pas donné de motif de.
Et Juan Bernat est blessé de longue date. Le titulaire du poste.
Forcément, il nous manque énormément.
En revanche, on parle d'irrégularité du PSG, en tout cas. Un degré moindre sur ces dernières rencontres. United, c'est à peine mieux au final, hein, parce que certes United reste sur des victoires, 4 victoires de rang,
mais ils prennent des buts.
Mais au final, ça prend des buts. Au final, il y a des incertitudes. Alors certes, il y a des individualités comme au PSG au final qui ressortent.
United, on y revient juste après. Le temps de terminer sur le PSG, on a passé en revue la défense, le milieu. On a un petit peu moins parlé de l'attaque. Et s'il y en a un qui cristallise les critiques, c'est Kylian Mbappé qui n'a pas que des bons souvenirs contre United. Ah. Il avait raté deux grosses occasions lors de l'élimination en 8e de finale en 2019. Il n'a surtout plus marqué depuis près d'un an dans la compétition.
Je prends conscience, c'est pas parfait, hein. Mais je pense que par rapport à avant, quand je venais d'arriver, je pense qu'on a vu la différence. J'ai pas besoin maintenant d'être bon pour être décisif, je sais rester concentré dans un match. Je pense aussi qu'il faut jouer avec les autres. Tu gagnes pas tout seul. Et ça, c'est le plus important dans un sport collectif. C'est pas encore parfait parce que je suis un attaquant. Et un attaquant, on m'a toujours appris et on m'a éduqué dans le fait qu'un attaquant, il doit être égoïste. Parce qu'un attaquant, c'est un poste spécial, comme gardien de but, c'est spécial. C'est des gens qui sont dans leur bulle. Le commun des mortels ne comprend pas l'état d'esprit d'un attaquant, donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils sont égoïstes. Voilà, j'essaie de faire un travail sur moi-même parce qu'il y a, pour gagner un match, il faut être 11, même 13, 14 avec les changements. Donc c'est comme ça, il faut s'ouvrir aux autres. Faire briller les autres aussi, c'est aussi important que de briller soi-même.
Voilà, l'égoïste hors du commun des mortels.
C'est lui qui le dit.
Kylian Mbappé, il répondait à Bein Sport. C'est vrai que c'est un petit peu surréaliste, hein, cette statistique. Pas de but en Ligue des Champions depuis un an. Deuxième quiz, messieurs. Contre qui Kylian Mbappé, avait marqué son dernier but en Ligue des Champions? Au buzzer.
Dortmund?
Alors non, c'était en phase de poule l'an passé, sixième journée.
C'était la sixième journée.
Alors pas le Celtic, non, c'était la sixième. Une équipe turque.
Galatasaray,
exactement. Réponse sonore.
Parc des Princes qui s'enflamme un petit peu. Kylian Mbappé rentre dans la surface, il va frapper, il va marquer. Kylian Mbappé, voilà, c'est ce qu'il cherchait depuis quelques minutes.
Voilà, un PSG Galatasaray commenté à l'époque par un certain Martin Guez. On a beaucoup de mal à le reconnaître à l'antenne.
Ça me dit quelque chose.
Beaucoup plus sérieusement, toutes les séries noires ont une fin. Donc il va bien finir par marquer quand même Kylian Mbappé en Ligue
des
Champions.
C'est sûr, à un moment donné, quand vous avez ce talent-là, je voyais une statistique hier qui était drôle. Que Payet en 2020 a marqué plus de buts en Ligue des Champions que Mbappé et Neymar additionnés. Voilà, ils ont un tel talent qu'ils vont évidemment marquer. Ce serait bien qu'ils commencent dès ce soir.
Oui, ce serait important, oui.
Non, mais je pense qu'il y a une question, parce que Tuchel l'a un petit peu aiguillonné en conférence de presse en disant que c'était un bilan insuffisant pour un joueur de son calibre. Ce qu'on veut revoir, c'est le Mbappé de l'époque de Monaco et du début du PSG, c'est-à-dire un joueur qui, au lieu d'essayer de faire un deuxième meneur de jeu alors que Neymar prend déjà toute la lumière, utilise au mieux ses qualités de vitesse, de profondeur, demande la balle en profondeur et déséquilibre les défenses grâce à ça. S'il est plus dans du petit jeu et dans du 1-2, il est moins intéressant parce que d'autres au PSG peuvent le faire aussi bien que lui.
C'est ce que vous disiez, Eric, qu'il arrête de faire de Neymar et qu'il va se du Mbappé.
Il faut que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit à la limite du hors-jeu et qu'il parte toutes les deux secondes dans le dos de la défense. Mais c'est vrai. Et il va les recevoir les ballons parce que Neymar va lui donner, parce que Verratti va lui donner. Le jeu à deux et dans les petits espaces, on n'en a pas réellement besoin avec lui. C'est plus dédié à des... On l'a vu d'ailleurs contre Bordeaux. Rafinha, Verratti au milieu de terrain, Paredes, il y avait de la technique, c'était très intéressant. Après, c'est sûr que bon, quand les deux sont sortis, c'était plus du tout, ça ressemblait plus du tout à rien. Mais il n'empêche que voilà, on avait du jeu comme ça. On n'a pas besoin d'Mbappé pour construire ce jeu-là.
Et encore une fois, le jeu avec cette position à la limite du hors-jeu, ben quand vous avez Maguire et Lindelof, j'entends par là des joueurs,
ça peut faire mal.
Relativement lent, ben c'est là que ça peut
bien
faire
sûr,
mal.
Exactement.
Et c'est là où Mbappé doit redevenir.
En face,
Mbappé
là où il doit
final.
Être intelligent, voilà, dans son jeu.
En face, c'est assez lourd à l'arrière peut-être, mais c'est du lourd quand même. Vous vouliez en parler, oui, Salim. 8 victoires de suite à l'extérieur, 7 succès d'affilée à la maison en Ligue des Champions. On a quand même l'impression que tout roule hein, pour Manu, qui n'a besoin de son côté que d'un point ce soir pour passer. Mais ils n'ont pas l'air d'être si diaboliques que ça quand on vous écoute.
Ouais, tout roule. Alors c'est très bizarre parce que les chiffres, effectivement, vont dans le sens de United. Après, quand vous voyez plus posément les résultats et les performances, ce week-end, quand ils sont menés 2-0 par Southampton, c'est logique qu'en fait, à la mi-temps, c'est normal. Au final, Cavani entre et tout change, ça passe des puis le doublé de Cavani. D'ailleurs, la cote de Cavani qui marque ce soir,
évidemment,
énorme,
façon, comme
évidemment,
tout Parisien marque.
Voilà, voilà. Mais Cavani qui a été exceptionnel ce week-end. Hein. Vraiment, il a fait un match fabuleux.
Mais comme tous les anciens Parisiens, ils marqueront forcément.
Voilà.
Tous
mais auparavant, il y avait une victoire difficile, 1-0 face à West Brom à domicile. Donc vraiment, dans le contenu, c'est pas sensationnel, mais c'est vrai que ça gagne. On parlait de confiance et Eric en parlait il y a quelques minutes. Elle est accumulée.
On va en parler justement d'Edinson Cavani, le diable parmi les diables.
Away by the goalkeeper, and as far as Fernandez who hits it, there's the header, 2-2, it's Cavani, what an impact from the substitute, Rashford, Swindon, and Cavani, it's a classic Manchester United comeback, Cavani has turned the game completely on its head, and the away day Kings have produced a remarkable comeback here, Southampton 2, Manchester United 3.
Country Road, on rentre à la maison, doit-on le rappeler. Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, sauveur de United ce week-end à Southampton. Plus de place pour les émotions. Est-ce que le Cav is back, Salim?
Ah, c'est sûr. Encore une fois, après ce qu'il a fait ce week-end, quand Harry Maguire, donc le défenseur de United, qui en a joué, qui en a affronté des attaquants, qui a surtout joué à l'entraînement avec des attaquants, donc ceux du United actuellement, Jamie Vardy à Leicester et autres, quand il vous dit, Harry Kane en sélection, quand il vous dit, c'est le meilleur attaquant avec lequel j'ai joué à l'entraînement, ça veut quand même dire quelque chose. Ce qu'il apporte est déjà l'aura qu'il amène, alors que quand même, on est dans une institution à Manchester United. Quand Ole Gunnar Solskjaer, pas n'importe qui à United, qui vous dit c'est un grand professionnel qui est aussi, alors qu'il vient d'arriver, qui presque se positionne en tant que grand frère, donne des conseils à Rashford, alors que Rashford c'est lui l'ancien final à United, ça vous démontre quand même l'attitude du joueur, l'implication du joueur, et au final qu'il soit remplaçant ou titulaire, on sait ce qu'il peut apporter à tout le monde.
Alors un match quand même spécial hein, pour Cavani forcément contre son ancien club, l'ancien matador devenu conquistador au service d'Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur mancunien.
Edinson, he's ready to play.
Edinson est prêt à jouer contre le PSG. Bien sûr, c'est très particulier pour lui d'affronter Paris. C'est son club, il en est le meilleur buteur et ça le touche. Mais je le connais, ça va lui donner de l'énergie et il sera prêt. Il va mettre ses émotions de côté. Les meilleurs joueurs savent le faire quand ils doivent être bons sur le terrain.
Alors Cavani, figure majeure hein, du PSG, vous nous le confirmez Eric, il mettra de côté ce soir les émotions, pas d'état d'âme, hein, pas d'état d'âme face à ses anciens coéquipiers.
Bien sûr, en plus voilà, il a aucune raison de se laisser manger par les émotions, voilà, non, il va faire son match. Je le soupçonne de marquer ce soir, vraiment, parce que d'abord, non, mais c'est vrai, parce que
allez parier, hein, parce que
d'abord on est moins
buteur,
fort défensivement
finalement.
Depuis que Thiago Silva est parti, je suis désolé, mais
ça, c'est sûr.
On est moins fort défensivement, donc déjà ça donne une opportunité à Cavani de marquer, et en plus je connais son adresse, et en plus il est en pleine bourre après
puis
ce week-end.
Il connaît un petit peu les défenseurs
parisiens. Il connaît bien les défenseurs, donc il connaît éventuellement les failles, donc voilà. Bon, j'espère que Navas va nous sauver très longtemps.
Mais vraiment, en termes d'individualité offensive, on parle de Cavani, Rashford qui est sur une période incroyable, que ce soit hors des terrains.
Quasiment
et
le
sur
meilleur
le terrain.
Buteur de la Ligue des Champions, il est juste derrière Erling Haaland.
C'est un bonhomme partout.
Et je vous dis, il est dans une période où il est encensé à juste titre. Enfin, il y a une ligne offensive, peut-être que Paul Pogba, il sera dans le groupe, c'est sûr, voire peut-être davantage. Enfin, offensivement parlant, United est très inquiétant pour la défense du PSG. Eric l'a dit, une défense du PSG qui n'est pas transcendante.
Alors, il y a Rashford, il y a Cavani, mais il y a un autre joueur qui doit vous plaire hein, en numéro 10 plutôt, c'est Bruno Fernandes, hein, qui est absolument magnifique cette saison.
Oui,
qui a peut-être toujours été magnifique, mais on le voit encore plus cette saison.
Je l'avais un peu charrié au sujet de sa course d'élan un peu particulière
sur
ses pénalties. Mais bon, moi j'adore ce joueur, c'est un joueur extraordinaire, il a trois poumons, il a une frappe de balle hors du commun, il a un sens du but alors qu'il n'est pas attaquant, il est milieu offensif, enfin c'est une sorte de meneur de jeu survitaminé un petit peu, un joueur un peu d'un genre nouveau, une sorte de joueur de synthèse entre plusieurs postes, protéiforme un petit peu. Et oui, Bruno Fernandes, ses buts récents, ceux de la semaine dernière, notamment en Ligue des Champions, sont sensationnels.
Salim, si on doit résumer, c'est une ligne d'attaque magnifique, milieu un petit peu en dessous et une défense prenable, c'est ça,
United? C'est à peu près ça. Et aussi, autre question, on n'a pas évoqué le poste de gardien. Qui sera vraiment à coup sûr
Derrea
gardien
annoncé
soi
remplaçant.
Mais c'est ça, voilà. Parce que Derrea a eu un coup et a été légèrement blessé lors du dernier match face à Southampton. Dean Henderson, qui le remplace. Attention, c'est du très lourd, Dean Henderson.
C'est pas un deuxième gardien comme Adrien.
Non, c'est pas un deuxième gardien. Pour le coup, c'est un numéro 1 bis, voire davantage. Mais quand il est revenu, puisqu'il était prêté la saison dernière, lorsqu'il est revenu à United, tout le monde s'est dit, peut-être qu'il va prendre la place de Derrea. Finalement, c'est l'Espagnol qui a été conservé, malgré les bourdes réalisées parfois. Henderson, s'il est amené à être titulaire ce soir, ça sera une vraie muraille et pas un numéro 2.
Alors messieurs, il n'y a pas que United PSG dans la vie, ni seulement ce match ce soir que vous pourrez suivre sur RFI, une grande soirée spéciale Ligue des Champions. Patrick Tuller, vous serez toujours là avec Hugo plaisir. Moissonnier, notamment à partir de 20h, temps universel. Il y a aussi une belle affiche d'esthète, une affiche de hipster, Borussia Dortmund, Lazio Rome, les deux premiers du groupe F, et un duel de buteurs aussi, Erling Haaland d'un côté, Ciro Immobile de l'autre. Est-ce que ça vous inspire ce match, ça vous donne envie?
Quand il y a une des deux équipes qui est entraînée par Lucien Favre, ça donne toujours envie. Déjà,
qui a eu un match compliqué ce week-end, qui a perdu à domicile en Bundesliga, mais que c'est vrai, en Ligue des Champions, 3-0 la semaine passée, ça, c'est impressionnant.
Voilà, en général, sur les gros matchs, c'est un coach qui aborde bien les choses, qui est dans le bon sens sur les gros matchs. Et ça, évidemment que ça donne envie, parce que on parlait de Rashford. Rashford, un joueur qui, sur la saison, est nettement au-dessus de Kylian Mbappé, sur les gros matchs notamment. Oui. Haaland, c'est pareil. Donc, je pense que tout ça, ça doit un peu faire cogiter Mbappé, parce que on le disait il y a encore 2 ou 3 ans comme le prodige de sa génération, le meilleur et de loin. Bah, si on regarde les stats récentes, c'est pas le cas.
C'est
il est rattrapé.
Rashford,
et donc, je suis curieux de voir en l'occurrence, sur le match de Dortmund-Lazio, ce que va faire Haaland encore, parce qu'il est lui aussi sur une dynamique très, très forte.
Au moins un but de
et pas des petits buts, c'est pas ça. Des buts de raccro, c'est des buts qu'il va
des
chercher.
Piquets, des grosses frappes de la tête, il est bon partout.
Avec une palette de finition remarquable. Donc voilà, c'est un joueur, j'ai envie de voir jusqu'où il peut aller.
Saline,
parce qu'on a l'impression qu'on ne trouve pas la limite encore.
Oui, je rejoins le propos de Patrick sur deux plans. D'une part, Mbappé, c'est vrai qu'il est très. On sait que les stats pour lui, c'est très important. Donc de voir d'autres joueurs qui réussissent des performances colossales, ça doit l'impressionner. En tout cas, ça doit le frustrer. Et côté Haaland, il est à plus d'un but par match depuis le début de saison. Non, je crois 17 buts en 14 matchs. En Ligue des Champions, il est sur des records que Messi, Ronaldo et tous les grands noms n'ont pas atteint. Lui, il le fait. C'est invraisemblable. Je crois qu'on on se rend compte, mais pas assez encore, des performances invraisemblables dont il fait preuve.
Sa force, elle est dans son insouciance, en fait. Il calcule rien, en fait. Donc, il se met pas de pression. Donc, il profite, en plus, d'un collectif qui est quand même plutôt intéressant autour de lui. Donc, c'est presque logique, en fait. Mbappé se met plus de pression, si on compare les deux. Là, il se met plus de pression parce qu'il veut participer à la construction du jeu, alors qu'on n'a pas forcément besoin. Haaland, il se pose pas de question. Il est là, dans la zone de finition. Il est là pour finir. Et il finit, et donc il profite.
Messieurs, si on résume, Manchester United, PSG, dans le même groupe Istanbul, Başakşehir, Leipzig. Dans le groupe E, Krasnodar, Rennes pour la Ligue Europa. Pour la première place, Séville contre Chelsea. Dans le groupe F, on l'a dit, donc le Borussia Dortmund contre la Lazio Rome. Dans l'autre match, le club Bruges contre le Zenit Saint-Pétersbourg. Et dans le dernier groupe, pas d'enjeu a priori. Le FC Barcelone qualifié se rend sur la pelouse de Ferencváros. Et la Juventus Turin accueille le Dynamo Kiev. Tiens, on laisse ces messieurs de côté. Mais où sont les femmes? Eh bien, au sifflet. Men's World, messieurs, c'est qui derrière au micro?
James Brown.
Évidemment, James Brown, un monde d'hommes. Ils seront 22 sur la pelouse de Turin ce soir, dont certains Cristiano Ronaldo. Et au milieu, pour les diriger tous, Stéphanie Frappard, française de 36 ans. Première femme arbitre en Ligue 1 l'an passé, première femme arbitre en Super Coupe d'Europe pour Liverpool-Chelsea 2019. Et donc ce soir pour Juve-Kiev en Ligue des Champions. Il était temps.
Oui, et c'est ce qui est malheureux, entre guillemets, hein, mais vous faites bien d'en parler, mais c'est d'en parler, j'ai presque envie de dire. Parce qu'au final, femme, homme, elle s'y connaît en foot, elle connaît les règles, elle arbitre depuis longtemps, donc j'ai presque envie de dire, on s'en fiche. Malheureusement, voilà, il était temps qu'en 2020, enfin, j'ai envie de dire qu'on qu'on casse cette anormalité. Donc elle peut le faire, elle l'a très bien fait en Ligue 1. Vous l'avez dit lors de la Super Coupe d'Europe, Liverpool-Chelsea qui était très attendu, je m'en souviens, à Istanbul, on y était pour RMC Sport, prolongation, tir au but, et elle avait remarquablement géré. Et d'ailleurs, je me souviens d'une certaine séquence qu'on avait sortie à l'issue du match, qui était intéressante parce que ben, au final, c'est aussi ça, c'est que lorsqu'il y a des décisions arbitrales, on voit les joueurs qui ben, ne s'expriment pas de la même manière auprès d'arbitre.
Exactement, il y a un peu plus de retenue, c'est vrai.
Un peu plus respectueux vis-à-vis de l'arbitre, qui, c'est très bête, mais ils ne vont pas faire du tête-à-tête, ne vont pas aller au niveau de l'insulte. Voilà, c'est très bête, hein, vous m'aurez compris. Donc, au final, ben, ça crée une autre ambiance et ça crée au final des décisions plus fermes, plus claires.
Vous parlez du rapport aux joueurs, elle n'a pas l'air d'avoir trop de soucis à se faire respecter.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport au match ?
Non. Est-ce que vous avez des spécificités, vous, à nous dire ?
Non, pas de souci. Par contre, juste vous rappeler que si on va jusqu'aux prolongations et aux tirs au but, deux, trois petites choses. Les prolongations, on reste sur le terrain, d'accord ? Vous avez 5 minutes de pause et après on repart. Et les tirs au but, pareil, on reste sur le terrain et on enchaîne.
Ok,
okay ? Donc voilà, soyez prêts et bon match à vous.
Bon, pas de tir au but ce soir, mais Stéphanie Frappard, première femme donc arbitrée en Ligue des Champions, une ascension fulgurante, reconnue par tous pour sa compétence. Est-ce que ça peut valoir d'exemple, selon vous, pour peut-être plus de femmes se disent « Mais moi aussi, je suis capable d'arbitrer des matchs d'hommes, finalement, et que, comme vous le disiez, Salim, on se pose plus la question, finalement, du genre. » Eric ?
Vous l'avez dit, Martin, elle est là aussi pour ses compétences. Mais c'est-à-dire que
fait.
Les compétences
c'est
vont
ça.
Faire la différence. À partir
pas
du moment
parce que
où
c'est
vous
une femme,
voilà,
c'est
exactement,
parce qu'elle
c'est exactement
voilà.
ça. Elle est là, elle est à sa place parce qu'elle est vraiment compétente.
Oui.
Donc elle n'a rien volé, elle n'est pas là parce qu'on fait une faveur à une femme. Tout elle est là parce qu'elle a été très, très 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 bien dans son arbitrage. Donc du coup, elle est récompensée. Logiquement dans son travail. Donc il va falloir que les prochaines arrivent derrière et soient aussi compétentes pour pouvoir profiter
oui.
de
mais c'est vrai que ça peut
ça mais ça va ouvrir la voie certainement.
Ça peut aller très vite Patrick. Je vais arrêter en Ligue 2 depuis 2014 jusqu'en 2019. L'an dernier elle arbitre à Amiens Strasbourg, ça se passe très bien et depuis elle a un petit peu tout arbitré, on lui a donné la Super Coupe, des matchs internationaux,
l'Europa League,
elle a déjà fait des matchs de Ligue des Nations.
Moi je qui regarde énormément la Ligue 1 tous les week-ends, je trouve qu'elle a un très bon arbitrage parce qu'elle est ferme.
Elle a sa place
sans faire d'autoritarisme, sans avoir le côté un peu caporaliste premier de la classe de certains arbitres comme Le Texier ou d'autres arbitres surcotés comme ça. Et elle arbitre très bien. Donc moi, qu'elle soit une femme, c'est évidemment une avancée et on peut se féliciter que ça ne pose pas de problème et que ça se passe bien. Et donc
et
tout ça
qu'on a entendu, les joueurs
est très bien. Mais
ce
qui est avant tout, et ça c'est pour moi, c'est à je parle de l'arbitre, je parle ni de la femme, ni de je parle pas de son genre, je parle de sa compétence. Elle arbitre très bien. Donc elle a une attitude, un abord des joueurs qui est excellent, qui a la bonne distance d'autorité sans autorité. Voilà, c'est pour moi
et c'est un vent de fraîcheur aussi par rapport au comportement des joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, forcément, on a un peu plus de retenue. On se dit que voilà, il y a le côté un peu macho qui va redescendre d'un cran. Et du coup, ça se passe très très bien. Et on a un comportement presque, j'allais dire, normal qu'on devrait avoir à tous les matchs de joueurs qui, si ça peut encourager de ce côté-là aussi, ça peut être pas mal.
Messieurs, on nous reste deux petites minutes avant de se quitter. On voulait, avec Radio Foot, rendre un petit hommage quand même à Mohamed Abaroun, l'ancien international marocain qui est mort aujourd'hui, à 31 ans seulement, à Rizeh en Turquie, lui qui jouait à Rizeh Spor. Des suites d'un cancer de l'estomac. Il avait pu jouer depuis le 25 février dernier contre Başakşehir. Il avait 7 sélections avec l'équipe du Maroc et il avait notamment disputé les Jeux de Londres avec le Maroc en 2012. Patrick Julliard.
Ouais, c'était un joueur originaire de Tétouan au Maroc. Il avait été un des artisans des succès, des titres du Maghreb de Tétouan au début des années 2010. C'est comme ça qu'il était devenu international olympique à l'époque de où c'est Pim Verbeek, le Néerlandais qui dirigeait cette équipe du Maroc olympique. Et il était parti faire carrière en Europe un peu sur le tard, il y a 2-3 ans, au Portugal, en Turquie. Et c'était un joueur, un vrai leader de défense, pas, un peu méconnu parce qu'il était parti dans des championnats un peu
plus exotique,
pas forcément très suivis, alors qu'il avait des offres de pays plus suivis justement. Mais voilà un joueur qui a été avant tout un symbole de ce club du Maghreb Tétouan dans sa période faste. Et il avait joué, c'est le seul joueur, enfin avec ses coéquipiers, à avoir joué un match de Coupe du Monde des clubs.
Tout à fait.
Il était d'ailleurs le capitaine et c'est l'année où le Maroc avait reçu la compétition, où le Raja Casablanca était allé jusqu'en finale contre le Bayern Munich.
Il a notamment affronté l'Espagne en 2012 au JO, l'Espagne d'Azpilicueta et d'autres grands joueurs. Voilà, Radio Foot, c'est terminé pour aujourd'hui. On n'oublie pas évidemment la grande soirée Ligue des Champions ce soir sur RFI, 20h temps universel, on vous attend. Et demain, retour de Radio Foot, ce sera avec Hugo Moissonnier. Merci à David Finzel, Pierre-Olivier Guérin et Laurent Salerno à la réalisation. Bonne soirée à tous, on se retrouve ce soir et on se retrouve demain.